Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Le moment de nous retrouver pour ces échanges au cœur de la nuit qui cherchent à vous donner un peu de clarté dans l'obscurité, à vous rendre la vie un peu moins solitaire. Pour autant, si réconfort il y a, l'isolement fait partie de notre être même. Ainsi, quel que soit le nombre de personnes qui nous entourent et nous aiment, nous resterons toujours isolés en notre conscience et il existera toujours une distance infranchissable entre soi et autrui. Voilà pourquoi nous sommes si tentés, en amour ou en famille, par la fusion avec autrui. Renoncer à devenir un individu, un être séparé des autres, rejeter tout ce qui peut nous singulariser, peut se comprendre comme une tentative d'échapper aux angoisses liées à l'existence. Car comme le souligne Irving Yalom, la conscience d'être un individu à part entière entraîne un sentiment terrifiant de vulnérabilité et de solitude. Sentiment que la personne tente d'apaiser en faisant marche arrière, en renonçant à son individuation, en cherchant à fusionner, à se dissoudre et à s'en remettre à un autre. Alors comment de fait ne pas grandir, de ne pas s'affirmer, de ne pas agir, de ne pas se séparer des autres? Autant de comportements et de manières d'être qui échappent bien entendu à la pensée et se mettent en place naturellement. Voilà pourquoi penser sa vie, la dessiner, peut nous amener sur les chemins de l'autonomie. Et puis surtout du sentiment d'être relié à beaucoup plus grand que soi. Alors dans l'esprit de Descartes, voilà que nous pensons et que nous sommes. Appelez-nous au 3921, vous serez accueillis ce soir par Thomas et Florian, ou laissez-nous un message sur libreantenne, tout attaché en minuscules, @europe1.fr, ou encore sur la page Facebook Sophie Peters. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS, en composant le 73921 en commençant votre texto par le mot nuit, et c'est Philippe Chartier qui réalise ce soir cette émission. 3921, nous sommes à votre écoute. Bonsoir Marcel.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Merci. Merci de me prendre à l'antenne. Je suis là pour vous raconter un peu mon histoire qui est un peu douloureuse en ce moment. Enfin, depuis deux jours, simplement.
Depuis deux jours, oui. Mais qui. Voilà, mais qui vous pose beaucoup de questions tout d'un coup. Questions
oui,
qui n'étaient pas là avant.
Oui. C'est un peu, je suis un peu sous le choc, je vis une histoire d'amour extraordinaire avec celle qui est mon épouse depuis 15 ans. Vraiment une histoire d'amour hors du commun, très fusionnelle. Je sais que vous venez juste de parler du problème de la fusion.
Oui.
C'est une fusion qui nous a rendus heureux. Vraiment plus qu'heureux pendant 12-13 ans, jusqu'au moment où on a eu un problème de santé, qui nous ont réellement cassés. Du point de vue physique, d'une part, on a récupéré depuis, mais ça a été un bouleversement intense dans notre vie. D'une part, à cause d'opérations chirurgicales multiples pour moi, mais pour mon épouse aussi, puisque fusionnelle, tant qu'à faire, quand j'ai fait une hernie discale, elle en a fait une aussi un mois après. Donc, c'est pour vous dire que notre fusion, elle est plus qu'intellectuelle, elle est aussi physique.
Souvent, c'est le cas. Elle est cellulaire. On parle de mémoire cellulaire aujourd'hui. Oui,
donc,
tout
voilà,
à fait.
C'est ça, absolument. J'ai eu des récidives, des opérations multiples, etc. Et des médicaments qui ont entraîné chez moi une dépendance, des morphiniques, des choses comme ça, qui ont entraîné chez moi une dépendance aux antidouleurs, avec des douleurs très très intenses qui m'ont empêché de dormir pendant des mois. Ça a été une période vraiment difficile. Mon épouse m'a beaucoup soutenu, aidé, sorti. C'est elle qui s'est aperçue de la dépendance que j'avais vis-à-vis de ces médicaments. et qui m'a permis d'en sortir jusqu'à la fin de mes douleurs. Le souci, c'est qu'il y a eu un changement aussitôt après dans notre relation, c'est-à-dire que cette relation d'exclusivité et de fusion, elle en est sortie, pas du point de vue amoureux, puisqu'on est toujours amoureux, mais elle a ouvert un peu le couple vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des amis qui sont arrivés, des amis qui sont presque des concurrents amoureux. Pour moi, oui. je parle juste d'un homme qui, lui, est amoureux de mon épouse, de ma femme. Ça, c'est sûr. Elle n'est pas amoureuse, mais elle a une amitié pour lui. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très admirable. Mais sa présence, j'allais dire, entre nous, était très mal vécue par moi. Je l'ai vécue un peu comme une trahison qui ne l'était pas, qui ne l'est pas réellement. Mais un changement intense, en tous les cas.
Mais il n'y a plus ce tête-à-tête, en tout cas. Oui,
C'est ce tête-à-tête qui a été remplacé par autre chose.
Ouais.
À partir de là, mes problèmes de santé plus ça, je me suis effondré complètement. J'ai une dépression, une réelle. J'ai perdu mon travail à cause de mes problèmes de santé. En plus, et ça, ça a été juste le déclencheur, de ma dépression que j'ai soignée autant que c'était possible et j'en suis sorti.
Donc cette jalousie, vous a entraîné vers la dépression.
Cette jalousie, cette peur de perdre à un moment où j'étais diminué physiquement, réellement diminué physiquement, où j'avais besoin de m'accrocher à ma bouée de sauvetage qui était voilà, et tout changement pour moi était à ce moment-là inenvisageable. Donc ça a été trop dur pour moi à ce moment-là. J'ai soigné ma dépression a été soignée comme on a pu et j'en suis sorti difficilement, mais j'en suis sorti. Et tout allait bien, tout allait réellement bien depuis 2 mois, puisque il y a 2 mois tout juste, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de me battre, qu'il fallait que j'accepte les choses telles qu'elles sont, et non pas continuer à lutter. Je parle pas contre mon épouse.
Oui, j'ai bien compris.
De l'ensemble de ce qui m'arrivait dans la vie.
Ce qui est le sens de la dépression. Elle est là pour vous donner cette indication-là, mais vous l'avez bien compris. Ouais.
J'ai toujours été... j'ai toujours dû me battre dans ma vie. Je me suis beaucoup battue.
C'est un grand épuisement psychique, ça.
Voilà. J'ai fait un burn-out à mon travail suite à l'ensemble de ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai quitté mon travail maintenant totalement. Donc, il y a 2 mois, j'ai compris que si je devais aller bien, il fallait vraiment que j'arrête de me battre. Qu'il fallait que je reçoive les choses comme elles viennent. Et tout est redevenu normal, comme avant. C'est-à-dire, j'ai retrouvé le bonheur de vivre, je suis redevenu très agréable à la maison, alors que avant j'étais toujours sur mes gardes, comme s'il allait arriver quelque chose d'inattendu. Et depuis 2 mois, ayant compris cette chose-là, je n'étais plus sur mes gardes.
Il n'y avait plus de peur.
Simple.
Voilà.
Oui.
Ça c'est le nœud de tout. Je me bats parce que j'ai peur, je suis jaloux parce que j'ai peur. Voilà. Voilà. Donc en fait, la peur, vous l'avez alchimisée, elle s'est intégrée, elle s'est dissoute petit à petit.
Voilà, je l'ai compris que ça n'était plus une résultante, mais une cause.
Oui, absolument.
De ce qui continuait à arriver.
Absolument.
C'est la résultante de ce qui s'est passé avant, mais c'est la cause de ce qui n'arrivait pas à reprendre.
Absolument, bravo, tout à fait ça.
Et à partir de là, ça allait très bien. Et mon épouse était... très heureuse de m'avoir retrouvée comme avant. Et on s'est retrouvés tout à fait comme avant. Et on partait en vacances. Là, on avait décidé, on a un spectacle, enfin on a quelque chose de très important à faire qui nous donne beaucoup de bonheur, et on a une semaine de vacances après, on partait en vacances réellement, le cœur joyeux. Et je ne sais pourquoi, je ne comprends toujours pas, là, dimanche on partait, c'est mon épouse qui a pris le volant. Elle s'est bêtement énervée contre un pare-soleil. Enfin, à peine 5 minutes après notre départ, je lui ai proposé de l'enlever, elle a refusé. Enfin, une chose vraiment...
Oui, anecdotique, mais souvent ça.
Tout à fait anecdotique, insignifiante. Elle a juré, alors que c'est la première fois depuis 16 ans qu'on se connaît, que je l'entends jurer. Donc, je n'ai pas compris. Donc je lui dis, mais attends, je te l'enlève. Et puis, il m'a dit, ne parle pas sur ce ton-là. J'ai pris peur. Je lui dis, arrête la voiture, je descends. Je suis descendu de la voiture, elle a démarré, elle est partie.
D'accord. Alors,
est partie. Je me suis dit, bon, 2 minutes après, je me suis dit, c'est complètement idiot, ça n'a pas de sens. Mais la voiture n'était plus là, je ne pouvais plus remonter. Je me suis dit, bon, elle va faire le tour du rond-point, elle va comprendre, elle va revenir.
Oui.
Elle n'est pas revenue. Un quart d'heure après, elle m'a appelé en me demandant si ça me faisait du bien de marcher. J'étais incrédule. Je lui ai demandé, mais tu es où ? Elle me dit, sur l'autoroute. Elle était partie.
Alors, Marcel, on va y revenir dans un instant. Hein. On doit faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Tout de suite. Alors Marcel, vous descendez de la voiture hein, parce qu'elle s'est énervée. C'est vous qui avez demandé à descendre. Hein, parce que vous étiez débordé par sa colère en fait.
J'ai toujours. Je ne supporte pas le conflit.
D'accord. Donc tout d'un coup, vous avez dit. Vous lui avez proposé d'enlever le pare-soleil.
Arrête-moi, je descende.
Oui, parce que vous avez proposé quelque chose qu'elle a refusé, vous êtes senti un peu rejeté, le ton a monté, et là vous avez demandé de descendre. Et contre toute attente...
Ça a été en trois mots.
En trois mots.
Il n'y a pas eu de scène. Elle m'a juste dit, ne parle pas sur ce ton-là. Je lui ai dit, arrête, je descends. Arrête la voiture, je descends.
D'accord. Vous, contre toute attente, alors que vous imaginez qu'elle allait faire le tour du rond-point et revenir vous chercher... Elle part, elle prend l'autoroute, hein, vous nous avez dit, et elle vous appelle pour savoir si vous êtes d'accord pour marcher, mais elle s'est déjà lancée sur l'autoroute, en fait.
Elle me demande si ça me faisait du bien de marcher. Marcher à pied.
Oui, mais combien de temps?
Elle était sur l'autoroute.
Oui.
Je lui ai demandé où elle était. Elle était déjà partie sur l'autoroute.
Ouais.
Donc elle n'avait pas fait le tour du premier rond-point.
Oui, c'est ça.
Passé le voyage, elle était partie sur l'autoroute. Et elle m'avait laissé sur une route qui n'est pas une route sécurisée. Il n'y a pas de trottoir. À 3/4 d'heure de la maison, à pied, avec un bord de chemin tout boueux. J'étais en chaussures de ville, enfin c'est un détail, mais je veux dire, je n'étais vraiment pas en sécurité, et j'avais 3/4 d'heure à pied pour arriver à la maison. Je me suis simplement senti humilié, comme puni, et je n'ai pas compris ni le pourquoi, ni comment elle n'a pas pris la première sortie d'autoroute, ou la deuxième, ou la troisième, pour faire demi-tour et revenir me chercher.
Juste pour repréciser quelque chose, Marcel, et c'est intéressant, parce que vous dites « elle m'a laissé » alors que vous avez demandé de descendre de la voiture.
Absolument, c'est ce qu'elle m'a dit.
Voilà, vous auriez aimé...
C'est ce qu'elle m'a dit.
Bien sûr, forcément, elle vous a dit ça.
Mais elle est partie.
Mais elle est partie.
Pardon.
Voilà.
Elle est partie.
Et vous pensiez qu'elle allait éviter le conflit et la dispute et qu'elle allait revenir, bien sûr. Alors, de quelle façon, après, elle est revenue, j'imagine, enfin, à la maison, ou elle est partie, elle, sur la route où vous deviez aller?
Non, elle est partie...
À la destination.
Sur notre lieu de vacances, elle a fait 100 km.
Elle a fait combien ? 100 ?
100 km, elle est partie là où on allait ensemble.
Et après ?
Elle est partie sur le lieu.
Vous êtes parlé, vous avez fait un point, qu'est-ce qui s'est passé ?
Absolument. Ouais. Donc moi, je suis arrivé chez moi à la maison, donc je me suis couché avec un calmant, puisque j'étais vraiment pas bien. Elle m'a mis un message pour savoir si j'étais bien rentré, si ça allait bien. On s'est reparlé, évidemment, on s'est reparlé. Elle est revenue le lendemain. Elle m'a demandé si je voulais reprendre l'autre voiture et venir la retrouver. Bon, je n'étais pas en état de conduire. Donc, je préférais qu'elle revienne me chercher. Elle est revenue. On est reparti ensemble. Elle est revenue... comment dire ? Je n'ai pas entendu d'elle, je regrette, ou j'ai fait une bêtise, mon chéri, j'aurais dû faire demi-tour, ou on a passé la journée ensemble, moi j'étais dans un état de nerfs, j'allais dire, pas joyeux, c'est évident. Il n'y a que le soir, on était dans deux chambres séparées. Je suis retourné la voir pour lui, vraiment, pour provoquer la chose. Non, c'est elle qui est venue, pardon. C'est elle qui est venue dans ma chambre pour reparler. Et j'ai enfin pu entendre je regrette ce qui s'est passé. Et j'ai essayé aujourd'hui toute la journée de comprendre avec elle pourquoi, dans quel but, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette colère soudaine contre rien dans une voiture, pourquoi ne pas avoir fait demi-tour, pourquoi m'avoir laissé sur une route dangereuse, abandonné sur le bord du chemin, c'est au propre comme vous figurez. On ne laisserait pas le chien qu'on aime, on ne laisserait pas sur le bord de la route.
Mais quelle leçon ? Parce que moi, j'entends qu'elle a voulu vous donner une leçon. Est-ce qu'elle sait laquelle ? Quel message elle a cherché à vous faire passer ? Il y a une leçon derrière ça, elle n'a pas. Elle sait très bien, vous dites, c'est une route dangereuse, elle m'a laissé. Vous demandez à descendre. Qu'est-ce qu'elle se dit ? Il veut descendre ? Tant pis pour lui, il descend.
C'est ça.
Il va se débrouiller et il va faire l'expérience de ce que c'est. Donc tu veux descendre, descends, comme on ferait avec un enfant. Hein. Tu es allé, vas-y.
Bon, exactement, effectivement, après, puni.
Alors pas puni. Et vous l'avez demandé. Attention, on est entre adultes. Hein. Et c'est vous qui l'avez demandé.
J'ai demandé à descendre, Sophie.
Pardon,
j'ai demandé à descendre
c'est
de
ça.
La voiture.
C'est ça.
J'ai demandé à descendre
tout
de
à
la
fait.
Voiture.
Je tout à fait.
Je n'ai pas demandé à rester sur le bord du chemin.
Oui, c'est-à-dire que vous avez imaginé qu'elle arrête la voiture. La violence, c'est qu'elle parte, c'est qu'elle vous laisse et que vous ressentiez de l'abandon. Pour vous, c'était descendre, ça voulait dire je voudrais que la voiture s'arrête parce que j'ai besoin de descendre de cette voiture. Et elle fait une autre action, elle s'en va. Elle a voulu, très inconsciemment, vous faire passer un message. Un message, c'est lequel d'après vous ? Qu'est-ce qu'elle a voulu vous dire ? Qu'est-ce qu'elle en dit, elle ? Qu'est-ce qu'elle s'est dit à ce moment-là ? Quand elle a parcouru ces 100 km vers la maison de campagne, dans quel état elle était ? Elle était en colère contre vous ? Elle était triste ? Elle était dans quel état émotionnel ? Elle peut le dire, ça ?
Je ne sais pas, non.
Vous n'arrivez pas à en parler,
en fait. J'ai essayé. Si, on en a parlé.
Oui.
Je l'ai interrogé. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, pour moi, aujourd'hui, j'ai eu du mal à lui parler en gardant... mon calme et l'expression de mon amour pour elle. Parce qu'on en est... Je dirais, il est évident que je l'aime. Et il est évident qu'elle m'aime. La question ne se pose pas.
Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des tensions et des conflits dans un couple qui s'aime. Marcel, c'est même la vie, d'ailleurs. Si vous voulez, le souci qu'il y a là dans votre couple... C'est ce qu'on dirait dans le monde de l'entreprise, on parle de gestion des désaccords. C'est-à-dire, il y a un désaccord, peut-être assez profond d'ailleurs, vu la scène sans mots qui s'y passe, cette tension sans mots. Il y a un désaccord. Bon, un désaccord, ce n'est pas un désamour. Mais vous me dites, j'ai horreur du conflit, ça me fait peur. Pour vous, désaccord, c'est désamour. Dans les couples fusionnels, le désaccord, c'est pris comme du désamour. « Ah, je veux t'enlever le pare-soleil qui te gêne et tu ne l'acceptes pas. Tu me rejettes alors même que je veux t'aider. Laisse-moi t'aider. » Vous voyez, les scènes classiques, des couples très attachés.
Oui.
Et puis, puisque tu ne veux pas que je t'aide, laisse-moi descendre. Et puisque tu veux descendre, descends. Et moi, je me tire. Oui, je vous l'ai fait en très court.
C'est ça, c'est
et chacun vit ça comme de l'abandon et du désamour. Donc vous êtes en miroir tous les deux, face à face, dans un système de couple qui ne supporte pas qu'on ne fasse pas tout pareil, qu'on ne pense pas tout pareil, qu'on ait envie de la même chose au même moment, qu'on ait les mêmes pensées au même moment, que tout colle, quoi. Ben non, ce n'est pas possible parce que vous restez quand même, Marcel, malgré les années d'amour, malgré les maladies traversées, deux individus, quand même différents. Quoi que vous fassiez et quoi que vous vouliez, vous êtes structurellement, consciemment, inconsciemment différents. Et donc, par moment, elle peut avoir envie, j'en sais rien, de gérer son pare-soleil. Alors, il y a eu quelque chose de très épidermique dans la scène que vous racontez et qui est passionnante parce que ça résume en condensé, en accéléré, finalement, tout votre système de couple qui n'arrive pas à faire avec du désaccord. Oui, l'idéal, à la limite, ce serait qu'elle puisse dire « Bah oui, j'étais très en colère contre toi pendant les 100 km, j'ai râlé contre toi, j'ai ruminé contre toi, mais peut-être elle n'ose même pas vous le dire. » Si ça se trouve, c'est ça. J'essaye de l'imaginer dans sa voiture, vous ayant laissé, elle a dû mettre 100 km à ce que sa colère se calme, jusqu'à finir par vous appeler, savoir comment vous alliez. Et vous, vous êtes rentré aussi dans votre colère, prendre un calmant pour essayer de dormir. Et puis après, vous arrivez à un lieu du couple où vous ne pouvez plus vous parler de ce qui s'est passé, tellement c'est dangereux. On dirait que c'est trop dangereux, donc il y a pas les, vous ne trouvez pas les mots, vous ne savez plus dire les choses.
Peur que le
Mais dites-moi
que l'origine de cette scène, l'origine de cette colère soit sa peur que mon état de déprimé, dépressif ou anxieux ne reprenne.
Bah,
alors qu'il n'y avait pas réellement de signes.
Alors à la limite, j'aurais interprété dans l'autre sens au début, quand vous me l'avez raconté. C'est-à-dire, je me suis dit, dans quelle mesure son état nouveau de bien-être, tout d'un coup, peut signifier pour elle qu'elle ne tient plus la même place dans le couple. Parce que quelquefois, on a ce qu'on appelle un bénéfice secondaire, inconscient, et qu'elle ne tient pas ce rôle de consolatrice ou de remettre de la ressource. Est-ce qu'elle se sent lésée, quelque part? Et moi, la question que je me suis dit, est-ce qu'elle a eu besoin de le léser? Voilà.
Bon. Je n'osais pas formuler les choses de cette manière-là. C'est une pensée qui m'a traversée. Mais...
Oui, j'ai pensé plutôt dans l'autre sens, parce que là, qu'elle ait peur que vous redeveniez dépressive, bon, c'est pas ça qui va créer une tension. Alors, qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à vous dire? Moi, vraiment, je reste coincée là. C'est-à-dire, je me dis, elle a quelque chose à vous dire qu'elle n'arrive pas à vous dire. Vous partez, comme vous dites, dimanche, on partait le cœur joyeux, donc vers un chemin du bonheur en vacances. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a piqué donc sa colère contre un pare-soleil, donc contre un objet. Elle jure, elle se met en colère. Il y a quelque chose qu'elle ne s'avoue peut-être même pas elle-même. Oui, c'est ce qui me semble. C'est souvent ça, quand on a des colères furieuses contre des objets comme ça du quotidien. Il y a quelque chose qui nous tracasse, qui nous tient, et on s'en veut. Et après, vous laissez, vous demandez à descendre, certes, mais qu'elle parte. C'est du passage à l'acte, en fait. C'est vrai que dans un couple, ce que je comprends ce que vous voulez dire, c'est que dans un couple qui s'entend bien, même si on a un coup d'éclat, on s'arrête 5 mètres plus loin, on lui dit « Bon, allez, vas-y, on va se parler, remonte dans la voiture, arrête tes bêtises. »
C'est ridicule, on ne va pas faire une chose comme ça, évidemment. Voilà.
Mais elle a voulu, elle a voulu marquer le coup, comme on dit. Mais quel coup elle a voulu marquer? Et elle est allée jusqu'au bout de quelque chose. Comme aussi une liberté. Elle fait ses 100 km, elle va dans la maison de vacances, seule. Elle marque une autonomie, là. Il y avait un petit côté avec le personnel, mais laisse-moi tranquille.
Pardon, Sophie, je lui ai posé la question soir. Est-ce que tu veux être toute seule? Est-ce que tu as envie de passer des jours toute seule?
Oui, peut-être,
Mais non. Là, sa réponse est non. Sa réponse, c'est qu'elle veut passer des vacances avec l'homme qu'elle aime.
Et qu'elle n'a pas d'explication, elle, aujourd'hui.
Elle n'a pas d'explication.
Elle se sent comment? Alors, moi, j'aimerais qu'on retourne sur le terrain émotionnel. Parce que là où vous pourriez enquêter, Marcel, c'est dans quelle émotion elle était en partant? Quelle émotion l'a tenue? Dans quelle émotion elle est aujourd'hui? Vous voyez, c'est ça qui va vous renseigner tous les deux. Et vous, d'ailleurs, alors vous, on comprend mieux dans quelle émotion vous êtes. Bon, beaucoup de tristesse. Vous avez parlé un peu d'abandon. Aujourd'hui, j'imagine que ça a réveillé la crainte.
Oui, absolument. Donc là, ça a réveillé la crainte du premier abandon, entre guillemets, qui n'en était pas un, mais qui était un changement, tout simplement. Mais un sentiment d'humiliation.
Un sentiment d'humiliation,
comme un petit garçon qui a été puni, qui est obligé de rentrer chez lui tout seul alors qu'il partait en vacances. Enfin, c'est pas ma place. C'est pas ma place de petit garçon. J'ai 60 ans, j'ai une vie. C'est pas ma place. Je ne peux pas être traité de petit garçon. Même si mon petit garçon, c'est toujours moi. Mais même celui-là ne se laissait pas, d'ailleurs, traité de petit garçon.
Oui, mais il y a quelque chose dans son comportement à elle par rapport à votre acte de très jusqu'au boutiste. C'est ça qui interroge. Alors, je comprends votre sentiment d'humiliation, mais je pense que c'est la première fois qu'elle marque comme ça un coup d'éclat d'autonomie et de liberté par rapport à vous. Voir ce que vous appelez, vous, de la punition, mais c'est une façon de dire aussi t'es un grand garçon maintenant, et tu vas te débrouiller, et t'es un adulte, et puis tu sais marcher, et t'as qu'à rentrer à la maison à pied. Après tout, chacun sa vie. C'est un peu chacun sa vie qu'elle vous a dit là. Chacun sa vie. Ah, tu veux descendre, bah tu descends, puis tu sais quoi, tu vas rentrer à la maison à pied parce que moi, tu vas pas me gâcher mon départ et moi, j'ai décidé de partir. Il y a quelque chose de la révolte, de la révolte de ce qui se passe dans votre couple. Et peut-être elle n'ose pas, vous avez peut-être une façon de vous parler d'amour depuis tant d'années, qu'il y a un interdit de dire, hein, de dire des choses, parce qu'après tout, on peut dire, alors vous avez beau lui dire, mais est-ce que tu veux être seule? Elle va vous dire, mais non mon chéri, bien sûr, elle va vous rassurer. Mais c'est quelque chose d'impulsif, là, que vous racontez. Donc, elle a bravé un interdit du couple.
Il y a une liberté, quand même.
Pardon ?
Que je lui laisse, parce que elle n'est... C'est pas quelqu'un qu'on peut emprisonner. C'est quelqu'un de très libre. La moindre contrainte, on peut pas lui imposer une contrainte quelconque.
C'est quelqu'un de libre
en esprit. Et c'est une liberté que je respecte depuis le début, sinon on n'aurait pas pu vivre ensemble. Je lui ai posé la question ce soir et on en a parlé ouvertement. Bah, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mais elle vous dit rien à ce sujet.
Elle ne sait pas.
Oui, vous voyez, comme c'est étrange.
Alors, elle n'a pas de réponse.
Ben oui, c'est pour ça que je dis comme c'est étrange, ça parle de l'inconscient. On fait une toute petite pause, Marcel, et on y revient tout de suite. Alors, Marcel, ce qui me semble important dans ce que vous nous racontez ce soir, quand il y a comme ça un coup d'éclat très gros, d'ailleurs, voilà, il y a un auditeur qui dit « Oulala, il faut que Marcel dédramatise, se sentir si mal pour si peu de choses, ça paraît disproportionné. » Après tout, ça a mis un peu de fantaisie sur leur parcours. Ça, c'est un message d'un auditeur. Je vous lis pourquoi. Pas pour forcément valider, c'est un avis. Ce que je trouve intéressant, oui, c'est disproportionné, mais je voulais rebondir sur ce mot-là, c'est parce que c'est disproportionné que ça a un sens énorme, un sens inconscient. Et que c'est une invitation pour vous, comme toutes ces manifestations de nos inconscients, quand il y a comme ça ce que Lacan appelait du passage à l'acte, hein, ça s'appelle du passage à l'acte ce que vous avez vécu. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer, on ne sait pas pourquoi. C'est quand on dit oh, je suis hors de moi ou j'ai fait ça et on ne sait pas dire. Bon, c'est l'inconscient qui a parlé. À partir de ce moment-là, il y a évidemment un message codé. Non pas forcément dans la cause, mais à quoi ça vous amène. Parce que pour moi, il y a une chose très importante pour vous, Marcel, et pour elle aussi, sans doute. Vous avez parlé effectivement de couple fusionnel, et la fusion peut avoir effectivement, comme vous dites, des bons côtés, et être quelque chose de très tendre, mais c'est aussi quelque chose de très contraignant dans le sens psychologique du terme. Quand je dis contraignant, c'est-à-dire qui crée une régression aussi. Et quand vous dites « je me suis sentie humiliée, punie », elle m'a laissé, vous employez tout ce vocabulaire-là, peut-être que ce que vous avez vécu, si vous en enlevez l'aspect drame, le drame du petit garçon, parce que là, vous rejouez une scène de votre tendre enfance, c'est le petit garçon qui est pu y humilier. Vous avez dû vivre quelque chose que ça vous a rappelé très fortement. Et là, dans votre vie d'adulte aujourd'hui, et après avoir passé, traversé une dépression, etc., c'est comprendre que là, il y a une liberté d'homme à trouver, vous, à l'intérieur. Pour traverser, pour pas garder une humiliation du côté de l'ego, mais pouvoir se dire « Ah oui, mais d'accord, voilà, je comprends que j'ai une responsabilité aussi à prendre dans ce qui m'arrive. » C'est-à-dire, la responsabilité répond de ses actes. J'ai posé un acte qui était de descendre de la voiture. Bon, elle en a posé un autre qui était de partir. Et bien, puisque c'est comme ça, je rentre à pied. Et je suis dans ma responsabilité, dans mon action d'adulte. C'est pas elle qui me fait faire quelque chose. Je vais jusqu'au bout de mon action. Parce que vous ne pouviez pas mesurer l'action de l'autre. Quand on prend une action, l'autre va faire une autre action qui n'est pas celle qu'on attendait. Évidemment, ce n'est pas celle que vous attendiez. Alors que vous soyez déçu, en colère, etc. Tout ça est juste émotionnellement. Mais c'est vraiment une invitation de croissance pour votre couple, il me semble.
Il faut pouvoir dépasser.
Ouais.
Il faut pouvoir surmonter cette émotion. On va la surmonter. Là. Ce soir, je n'ai pas... Il y a 2 heures, j'avais encore la crainte. Ce soir, j'ai moins la crainte.
Oui, j'entends.
J'entends.
J'ai envie de vous dire, ne remontez pas, Marcel, descendez rendre visite à un petit garçon qui a eu très très peur et à qui il est sans doute arrivé quelque chose, en tout cas de similaire, pas dans l'action, pas dans le fait, mais en tout cas dans le ressenti émotionnel. Allez lui rendre visite à lui, parce que lui, il va vous donner une réponse. Elle est inscrite en vous. Et c'est pas... Et apprenez dans cet épisode le désaccord dans le couple. C'est des scènes. C'est sans doute la première fois que vous avez comme ça une scène, quoi, un éclat comme ça aussi fort. Bon. Un éclat aussi fort. Alors, il y a des couples, vous savez, qui ne vivent que là-dessus, d'ailleurs, qui ne tiennent que sur les éclats. À contrario, il y en a d'autres comme le vôtre qui tiennent sur le fait qu'il n'y ait jamais d'éclat. Mais il y a entre les deux, il y a un entre-deux. Et là, il me semble qu'il y a aussi un apprentissage pour tous les deux. C'est, est-ce qu'on se donne le droit, chacun, de ne pas être d'accord? Est-ce qu'on se donne le droit de pouvoir peut-être blesser l'autre en n'étant pas d'accord? Est-ce qu'on a ce droit-là? Est-ce qu'on est parfait ou on n'est pas parfait? Est-ce qu'on se donne ce droit de nos imperfections? Là, il y a vraiment un pardon à trouver ensemble, Marcel.
Oui, c'est ça, c'est le mot.
Il y a vraiment un pardon à trouver. Et pardonner, c'est vraiment donner quelque chose au travers. C'est se donner de l'autorisation à vous deux. Oui. Et chacun là à apprendre de cet épisode combien une tension est possible dans un couple. Et c'est pas du désamour. C'est pas du désamour. C'est ça que vous avez besoin de comprendre absolument, Marcel. Et par le pardon, vous allez comprendre que c'est pas du désamour. Mais voyez comme là, vous avez touché, enfin, ce qu'on appelle une angoisse d'abandon extrême, voire peut-être pire, une angoisse de dissolution. Vous voyez, d'être liquéfié, d'être brisé, d'être brisé en morceaux. Ouais. C'est des angoisses très archaïques. Hein. C'est 0 à 1 an, hein, cette angoisse-là dont je vous parle. Hein. Donc c'est très, très petit. Hein. Et ça peut être à l'occasion d'une maman qui n'a pas su, mais voilà, elle a laissé son bébé. Voilà, c'est ce que vit le bébé dans ses hurlements. Et, évidemment, après, vous grandissez, vous traversez tout ça. Mais il y a quelque chose qui se rejouait d'extrêmement profond pour vous. Et sans doute chez elle aussi, c'est ça qui est intéressant.
Il n'est pas utile de creuser, de savoir pour elle, je veux dire. Enfin, pour moi, c'est pas utile, c'est sûr. Je vais passer, on va tourner la page.
Ce qui est utile, c'est d'aller creuser le sentiment d'humiliation et de punition. Bien sûr que si.
Ah oui,
en tout cas,
moi,
d'aller le rencontrer.
Personnellement, oui.
Voilà. Et de se dire, j'accepte, bienvenue à la tension dans mon couple, bienvenue au désaccord. Voilà, j'accepte d'ouvrir la porte du désaccord et j'en meurs pas et je ne suis pas détruit et je peux le supporter. Voilà. Ça va être aidant pour vous. Maintenant, mon couple n'est pas détruit. Absolument, absolument. Voilà, absolument, Marcel. Maintenant, elle, c'est son disque dur à elle, c'est son code secret, c'est son jardin. Vous n'avez pas besoin de savoir. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas avoir accès. Ou elle a accès et elle n'a pas envie d'en parler. ou l'accès lui sera ouvert plus tard, et elle aura à ce moment-là envie de vous le partager ou pas. Là, c'est ça aussi, hein, un principe de singulier et d'individu dans un couple différent. C'est que bah, on ne se dit pas tout le temps tout. Voilà.
Non, non, mais ça c'est respecté, suffisamment
ouais.
respecté.
D'accord, trompe. D'accord. Donc elle, bah, elle fera en fonction de ce qui est important pour elle, et peut-être qu'il faudra du temps pour que tout d'un coup, elle en trouve du sens. Comme dit Fabienne, j'aime bien son message, peut-être son épouse s'est permise une colère, vérifiant ainsi qu'il pouvait la supporter, comme si elle aussi avait connu enfant quelqu'un de déprimé qu'elle aurait protégé de ses colères. Merci Fabienne, c'est un magnifique message. Je pense que pendant votre dépression, elle vous a protégé de ses colères. Là, vous alliez bien, elle a pu effectivement, comme le dit Fabienne, s'autoriser sa colère.
Mm-hmm.
Et elle fait l'expérience de quoi ? Bah, que vous pouvez la supporter, que vous n'êtes pas détruit. Et ça, c'est vraiment essentiel.
Ouais.
Et je crois que c'est très inconscient chez elle, parce qu'elle a dû peut-être refouler certaines choses du temps où vous n'étiez pas bien. Et là, justement, parce que c'était joyeux, parce que c'était léger, à son tour, elle pouvait tout d'un coup se libérer d'une forme d'oppression. Et je pense que les 100 km, elle a eu besoin de faire ces 100 km pour libérer quelque chose. Elle ne sait pas dire quoi. Et c'est assez normal, finalement, et naturel qu'elle ne sache pas dire quoi. Parce que c'était dans l'impulsion, en fait. Mais parlez-lui de ça, hein, de peut-être de cet enfant déprimé qu'elle aurait protégé de ses colères et qu'elle a eu besoin de se permettre cette colère. Et de vérifier hein, que vous pouviez la supporter. Ça vous parle, ça ?
À quel point ça me parle, oui.
Oui, ça vous parle, Marcel. Ouais.
Parfaitement, ça me parle.
Je pense que vous faites un magnifique apprentissage, tous les deux, hein, cette occasion. Hein. Vraiment très beau. C'est une vraie croissance, là, pour votre couple. Mais ouais, c'est une vraie croissance. C'est important, hein, ça, et ça aussi dans ces relations fusionnelles. C'est une forme de diffusion hein, que vous êtes en train de vivre. C'est, et si je m'éloigne, est-ce qu'on va pouvoir supporter voilà, l'épisode orageux ? Ah ouais. C'est pour ça qu'il est important de ne pas fixer. C'est pour ça que je vous parle de pardon. C'est pour ça voilà, que des auditeurs réagissent sur le fait de dédramatiser. Parce que si vous en faites un drame dans votre couple, vous allez fixer la scène, Marcel. Et si vous la fixez, bah elle va se décomposer, mais pas de la plus belle façon. Donc ne fixez pas. C'est du mouvement. Ouais, la colère et les tensions, c'est du mouvement. Hein, comme les orages dans le ciel, c'est du mouvement. Hein, c'est de la météo, c'est la météo du couple. Et accueillez-la.
Le soleil est derrière. Ouais.
Absolument, absolument. Je vous souhaite une belle nuit, Marcel, et merci. Et j'espère que
merci
voilà,
beaucoup,
vous serez un peu plus apaisé maintenant avec cette histoire-là.
C'est plus clair.
C'est important. Merci à vous. Bonne nuit.
Merci aux
auditeurs. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Sophie Peters.
Et c'est la libre antenne qui vous accueille ce soir au 39-21. Florian et Thomas qui sont à votre écoute, Philippe Chartier aux manettes. Vous pouvez réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS 739-21 précédé du mot nuit. Vous pouvez également nous joindre par mail libreantenne@europe1.fr ou par la page Facebook Sophie Peters 39-21. Nous sommes à votre écoute. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir
Sophie.
Jeanne. Oui.
Oui.
Bienvenue.
Alors, oui, je vous remercie. Alors, voilà ce qui m'amène. Je vais peut-être me présenter. Donc, Je suis Jeanne. J'ai 62 ans. Et j'ai 3 enfants, tous adultes trentenaires. Et puis, donc, je suis veuve depuis 2011.
Mm-hmm.
Alors, je ne sais pas si je vais tout de suite dans le sujet qui m'amène chez vous ce soir,
oui.
ou est-ce que je fais quand même un petit fil conducteur pour arriver justement à ce...
Eh bien, avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, Jeanne ?
Alors, peut-être quand même vous raconter
un
le
petit
tout.
Fil, voilà.
Oui, un petit fil conducteur,
d'accord.
Oui. Donc, après mon... quand mon mari est décédé. Mmh. Donc, j'ai eu quelques mois de très compliqués. J'étais à la fois en colère et puis très chagrinée. J'ai été un petit peu déprimée, il faut le dire aussi. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis ressaisie en me disant que, voilà, il fallait quand même réagir. Et puis, il fallait aussi que je me rende correcte, puisque ma fille avait le projet de se pacser. Mmh. Et puis, je voulais aussi organiser une cérémonie à la mémoire de mon mari pour les 1 an de sa disparition. Je voulais organiser une cérémonie dans son pays d'origine, puisque sa famille n'avait pas pu venir pour l'enterrement. Donc, nous voilà partis, mes enfants et moi, dans son pays, où nous avons été accueillis, bien sûr, par sa famille. Donc, un de ses cousins nous a bien facilité les choses, nous a conseillé, etc. Et puis, lors de ce séjour, je me suis aperçue que je me réintéressais aux hommes, malgré moi. Enfin, je veux dire, je n'étais pas partie là-bas dans ce but-là,
bien
évidemment.
Bien sûr, mais le désir reprenait ses droits. Oui.
Voilà, j'étais la première surprise.
Désir de vie, ouais.
De tout ça.
Prouve que voilà, vous aviez fait tout le processus de deuil hein, quand on est dans l'acceptation. Peut-être d'ailleurs ce voyage vous a permis de mieux accepter hein, ce deuil.
Oui. Donc, nous avons fait la cérémonie. Et puis, je suis restée en contact avec ce cousin qui nous avait aidés. Alors, tout d'abord, ça a été un contact, c'était surtout des messages par mail. Et donc, de façon un peu familiale, quoi. Et puis, petit à petit, s'est nouée une relation virtuelle, bien sûr, puisqu'il y a des milliers de kilomètres entre nous. Il y a toujours des milliers de kilomètres entre nous. Et puis, donc, voilà, petit à petit, une relation s'est nouée. Et puis, jusqu'à ce que j'aille le rejoindre un jour.
Avec ce cousin. D'accord.
Avec le cousin, ouais. Voilà. Et pour, déjà pour se voir en terrain neutre, on va dire comme ça. Et puis, voilà, donc la relation a eu lieu pendant quelques jours. Et bon, alors évidemment, hein, pendant quelques jours, c'était très bien, etc. Et j'ai rapidement compris, et il m'a fait comprendre aussi rapidement que la seule opportunité qu'il pouvait m'offrir, c'était la place de deuxième épouse, en quelque sorte, puisqu'il a déjà une épouse, je le savais, etc. Alors, bon, évidemment, je ne pouvais pas accepter. Je garde de cette relation le fait que ça m'a redonné confiance en moi. Et puis, donc, nous restons en contact de temps en temps, mais simplement pour se donner des nouvelles de façon très apaisée, et de façon familiale, on va dire. Puisque rien n'est possible du fait que je ne peux pas, enfin, je ne me vois pas être la deuxième épouse, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, donc ça, c'était 2013. Et puis, fin 2013, je ne voulais pas passer le réveillon toute seule. Donc, je me suis mis à chercher où passer le réveillon, parce que voilà, je ne voulais pas encore passer un réveillon chez moi toute seule. Donc, je cherche sur Internet et puis je vois qu'il y avait une fête à tel endroit, etc. Donc, je m'y rends toute seule, je ne connaissais personne, j'y vais toute seule. Et puis, bon, ben là, l'ambiance était chaleureuse, c'était familial aussi, il y avait des enfants, des familles. Et puis, voilà, la soirée se passe. Et puis, il y a un homme jeune, un homme jeune, qui m'aborde. Et puis, voilà, donc du coup, eh bien, j'étais contente que quelqu'un aussi me parle. On a sympathisé, on a parlé. Et puis finalement, bon, il ne me déplaisait pas, ce n'était pas non plus le coup de foudre, mais enfin, voilà, c'était une rencontre. Et puis la rencontre, eh bien, s'est prolongée, et c'est un homme que j'ai fréquenté pendant quelques mois. Alors, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment les mêmes valeurs. Et puis, j'avais là aussi quand même une rivale un peu de poids, à savoir la religion. Alors, au bout de quelques mois, bon, d'une part, c'était quelqu'un qui ne, c'était un homme qui ne travaillait pas. Et j'ai fini par comprendre qu'il était plus intéressé par ma situation, c'est-à-dire une femme qui travaille, qui s'assume, et voilà, plutôt que et peut-être même vouloir vivre chez moi. Et ça, je l'ai compris après. Donc, j'ai mis fin à la relation au bout de 4 mois parce que voilà, il y avait trop d'incompréhension de part et d'autre. Et donc voilà, donc la relation s'est terminée comme ça. Et puis, courant août 2014, je me suis rendue dans un organisme qui aide les gens, les personnes en difficulté, pour donner des objets dont je voulais me débarrasser. J'avais fait un peu de tri chez moi. Et puis, à cette occasion-là, eh bien, j'ai vu un jeune homme cette fois. Je ne peux pas dire un homme jeune, c'était un jeune homme. Et vraiment, j'ai eu le cœur qui s'est emballé tout de suite. J'ai eu comme un... Enfin, je l'ai vu et voilà, j'ai eu comme un coup de foudre, on va dire ça comme ça. Le cœur qui s'emballe, j'ai eu l'impression que je devenais toute rouge, etc. Et j'avais peur que aussi les gens autour de moi s'aperçoivent de quelque chose parce que voilà, j'étais un petit peu tétanisée. Et puis, donc, je me suis arrangée pour l'aborder et pour qu'on échange au moins nos téléphones, puisque pour lui, c'était quand même son lieu de travail. Et voilà, je ne pouvais pas... d'abord, j'étais aussi... Je ne savais pas comment l'aborder aussi. Mais bon, j'ai fini quand même par avoir son numéro de téléphone. Donc, je l'ai appelé au bout de 2 semaines. Parce qu'avant, je ne pouvais pas, j'avais des engagements avec mes enfants, etc. Je le contacte, on se rencontre, et là commence une relation. Et comment je pourrais dire, pour moi, alors je vais l'appeler G,
oui.
sans s'en rendre compte. J'ai m'apporte tout ce que j'aurais aimé connaître quand j'avais 18-20 ans, c'est-à-dire un petit imaginaire que peut-être les femmes ont quant à la rencontre avec l'amoureux, etc.
Et il y a quel écart d'âge entre vous ?
Il y a 30 ans.
30 ans d'écart, d'accord.
Oui.
Donc vous avez entamé une relation avec lui, une relation qui est toujours d'actualité aujourd'hui.
Oui, si on peut qualifier... Enfin, oui, la relation c'est-à-dire... est là, mais, ouais. mais c'est-à-dire qu'on se voit de moins en moins.
Oui.
Parce que... Alors voilà, donc on commence notre relation et assez rapidement, il m'a demandé ce que j'attendais de cette relation. Et alors je lui ai dit une relation amoureuse, intellectuelle, une relation d'amour, une relation charnelle, enfin voilà, quelque chose d'assez... Enfin, c'était tellement extraordinaire. Et lui, rapidement, il me dit que lui, il est à la recherche, enfin à la recherche, c'est peut-être pas le mot, en tout cas, il cherche quand même à connaître une femme et faire et fonder une famille avec elle. Donc je lui dis, eh bien, écoute, ça sera pas avec moi, que je ne pourrais pas te donner d'enfant. Bon, malgré tout, la relation continue. Et puis les circonstances font que il vient habiter chez moi.
Oui.
Il vient habiter chez moi, c'est moi qui lui suggère parce qu'il n'a pas beaucoup d'autres possibilités, on va dire. Et ce qui m'a plu chez ce jeune homme, c'est sa maturité, ce qui m'a étonnée plutôt. Sa maturité pour son âge m'a beaucoup étonnée. Et ce qui m'a plu, c'est son désir de progresser, son désir de s'en sortir, son désir de travailler, avec cet homme-là, j'étais et je suis en accord aussi bien physique que moral que mental. C'est vraiment, c'est étonnant, quoi.
Et alors, vous en êtes où aujourd'hui de cette relation? Et donc, j'imagine que c'est le pourquoi de votre appel.
Voilà, ouais. Tout à fait, parce que ça fait plusieurs temps que je veux appeler. Et puis, je pensais toujours entendre, parce que je vous écoute, et je pensais toujours entendre une histoire qui s'approcherait de la mienne pour pouvoir... Ouais. Et en fait, non, parce que chaque histoire est particulière.
Absolument.
Donc, il est resté 6 mois chez moi parce que pour lui, il n'était pas question de s'attarder plus chez moi parce qu'il voulait être chez lui, il voulait être autonome, il voulait être chez lui, avoir sa clé et avoir son nom sur sa porte, comme il m'avait dit. Donc, au bout de 6 mois, il avait de quoi prendre son appartement, etc. Donc, il est parti. Et puis, là, il m'a fait comprendre que, ben voilà... que l'on pouvait continuer la relation, mais que lui, de son côté, eh bien, chercherait à rencontrer la femme qui deviendrait la mère de ses enfants. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a dit les choses comme ça, donc c'était... Il n'a pas voulu rompre, et moi non plus, bien évidemment. Donc, nous avons continué notre relation en nous voyant toutes les semaines ou tous les 15 jours, voilà. Et puis, en 2016, il a fini par faire connaissance avec une jeune femme. Et donc, il me l'a dit. Et puis, donc, il a commencé à vivre de temps en temps chez lui, tout ça. On continuait quand même à se voir.
Ouais. Et puis, et avoir une relation de couple.
Oui.
Oui.
Oui. Et puis, donc, fin 2016, il m'annonce que, ben voilà, il va être...
Et est-ce que vous pouvez parler dans le combiné, parce qu'on ne vous entend pas bien, Jeanne?
Ah d'accord, excusez-moi.
Ouais.
Ouais. Ça va mieux comme ça?
Oui, ça va mieux, merci.
Alors donc, la relation continue, et puis fin 2016, il m'annonce que, eh bien, il va être papa. Donc, c'est vrai que là, j'ai traversé une période un petit peu compliquée. Mais comment je pourrais dire ? En fait, il ne tenait qu'à moi aussi de mettre fin à la relation.
Oui, absolument.
Mais je n'y arrive pas.
Et toujours aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, la situation est autre encore. Parce que là, bon, bien sûr, il est...
Donc, il est papa d'un enfant de 3 ans,
voilà.
Là ouais.
Pas tout à fait.
Ah oui,
pas tout à fait. L'enfant est né en 2017. Il a tenu à donner un de mes prénoms à son enfant. Moi, je lui avais dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais bon, il l'a fait quand même.
Il a donné votre prénom? C'est une petite fille?
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Et son épouse ou sa compagne, enfin, il n'est peut-être pas marié, connaît votre existence?
Non, du tout, non. Non. Alors, là, depuis... Alors, donc, on va dire que depuis 2016, à peu près, je me prépare dans ma tête à me dire quand il va venir, il faut lui dire que voilà, que c'est pas agréable pour moi, et voilà. Mais je n'y arrive pas, parce que dès que je le vois, eh bien, j'oublie tout, parce que j'ai quelqu'un qui m'apporte la joie, qui m'apporte... Alors, on discute, on rit, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est... Enfin, il a plein de qualités, quoi. Et puis, bon, il faut dire aussi que j'ai des sentiments très profonds pour lui.
C'est ça, oui, bien sûr.
Donc, ce qui fait que je n'y arrive pas à chaque fois.
Mais et lui, comment il envisage... sa vie d'homme, alors, de père, de compagnon par ailleurs.
Oui, Donc là, régulièrement, il me dit que, il me laisse entendre que de toute façon, la relation, notre relation prendra fin parce que il y a les exigences de la vie de famille, etc. Donc ça, je ne peux pas lui en vouloir non plus. D'abord, je sais les choses, je veux dire, il ne m'a jamais rien caché. Et puis là, dernièrement, on va dire qu'en 4 mois, on s'est vu que 2 fois. Donc là, je me pose quand même des questions aussi, parce que d'habitude, on se voyait tous les 15 jours, 3 semaines.
Ben ça y est, enfin, c'est d'actualité. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'il a dit prend voilà. corps. Ouais.
Voilà. Alors, la dernière fois que l'on s'est vu, je lui ai encore posé la question. Voilà, tu me dis que tu ne veux pas me perdre, mais voilà, on ne se voit pratiquement plus. Qu'en est-il? Et donc...
Oui, mais vous faites dépendre... Oui. Enfin, je vous arrête, Jeanne, parce que vous faites dépendre la décision de lui en disant, ben voilà, on se voit de moins en moins, qu'en est-il? Donc, c'est lui qui décide. En d'autres termes, vous attendez, vous.
Oui, je suis un peu dans cette attente-là parce que, alors, il y a eu un moment, enfin, de longs mois, où je me suis dit, si je lui dis que je le laisse, je vais peut-être lui faire de la peine aussi. Et puis, bon, il a des problèmes d'ordre administratif et tout, donc je ne veux pas en rajouter. Il y a eu ça, il y a eu cette période où je me suis dit, je vais peut-être lui faire mal aussi. Et puis après, je me suis dit, mais c'est peut-être à moi que je ne veux pas faire mal aussi.
Oui, absolument, c'est plutôt
parce
ça.
Que, bien sûr. Et parce que j'ai peut-être peur de... Parce que ce serait un deuil à faire.
Tiens.
Et ça, oui. Et alors, ce qui m'a fait... Donc, alors, ça fait déjà deux mois qu'on ne s'est pas vu. Et je voulais donc vous appeler pour vous demander comment se fait-il que je n'arrive pas à lui dire. Et entre-temps, la semaine dernière, il m'a envoyé un SMS. Et au-delà... À travers l'échange, il m'a laissé entendre que pour lui, il avait plus de l'amitié pour moi et de la tendresse que de l'amour maintenant. Mmh. Alors, on ne s'est pas revus depuis et je sais qu'il faut que l'on se voit pour vraiment... Il faut qu'on tire les choses au clair maintenant.
Clore,
voilà.
Alors, clore, parce qu'il y a des vies, parce qu'il est dans un autre trajet de vie qui ne vous inclut pas aujourd'hui, Jeanne.
Voilà,
donc, vous avez besoin d'en prendre la mesure pour aussi que votre vie ne dépende pas de lui. C'est important que vous puissiez vous dire, voilà, on a vécu une très belle histoire, une histoire à eux. Bah, parfois improbable, bon, mais elle est aussi dans la littérature. Je pense à Harold et Maud, je pense à... Hein, vous avez peut-être lu ce... Vous avez lu ce livre de Michel Déon, non ? Harold et Maud ?
Non.
Ah, bah, lisez ce merveilleux roman d'Harold et Maud, voilà, c'est votre histoire. La littérature, vous savez, c'est un recours merveilleux quand on veut aussi se trouver, se comprendre. Bon, c'est tout à fait votre histoire. Bien sûr qu'on voit des jeunes hommes faire un bout de chemin en début de l'âge adulte avec des femmes beaucoup plus mûres, hein, comme une transition de vie. Et puis, ces histoires-là sont pas destinées à durer. Et je pense que vous le savez depuis le début, Jeanne. C'est ça que je pense que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas admettre. Vous êtes dans l'illusion, vous continuez dans l'illusion de l'histoire d'amour sans admettre que cet amour-là a une durée de vie. Voilà. Et lui, sans doute, pourquoi il ne vous quitte pas ? Pour pas vous faire souffrir et pour pas prendre sa responsabilité d'homme en se disant « elle est plus âgée, je vais la faire souffrir, je l'abandonne ». Voilà, chacun est dans le soin de l'autre, mais c'est pas le bon soin. Pourquoi c'est pas le bon soin ? Parce que vous vous mettez à la place de l'autre sans vous mettre à vos places respectives. Sa place à lui, elle est dans sa nouvelle vie, dans sa vie de couple, de famille. Et votre place à vous, elle est dans le fait de poursuivre votre chemin en ayant eu sur votre route, voilà, ce jeune homme qui vous a redonné vie, offert beaucoup de choses, avoir
Sophie,
permis de partager.
C'était extraordinaire. C'était vraiment, comment je pourrais dire, c'était un feu d'artifice.
Oui,
mais... Je veux dire, je sais bien que je ne pouvais pas lui donner les enfants qu'il aurait voulu.
Non. Non. Et donc, vous alliez à ce moment-là, c'était un peu aussi comme un accord entre vous, c'est-à-dire un accord que vous ne pouviez pas l'arrêter dans sa vie, à lui, sur son chemin. Il avait besoin, voilà, c'est les âges de la vie. Lui a encore des étapes à franchir et vous avez été sans doute une fabuleuse rencontre sur son chemin.
Oui, c'est ce qu'il me dit aussi. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'a étonnée, c'est sa maturité. Et il m'a toujours
dit... Oui, c'est pour ça qu'il est allé vers vous, d'ailleurs.
Oui, et alors, il est... Comment je pourrais dire, il est admiratif de ma vie, de la vie que j'ai pu accomplir. Et il s'en inspire. Pour lui, je suis un exemple. Quand je dis ça, c'est pas... Je veux pas...
Bien sûr, bien sûr.
Mais pour lui, je suis un... Il me dit, pour moi, tu es un modèle, voilà, tu as eu une vie aussi, tu l'as réussi, pour moi, tu l'as réussi, etc. Et je sais qu'il a des profonds sentiments aussi pour moi, mais ce sera plus, je pense que l'amour est en train de passer de son côté. Et moi, il va falloir refaire, ça va être très compliqué. Oui. Alors, quand il me propose l'amitié, parce qu'il me l'avait déjà proposé l'année dernière, non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, et ça, pour moi, ça va être compliqué.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? C'est-à-dire, est-ce que vous vouliez garder l'illusion d'un amour solaire qui durerait voilà, toujours? Est-ce que c'est là-dedans que vous êtes? Et là, je rejoins le roman que je vous conseille de lire. Est-ce que c'est ça dont vous ne voulez pas, auquel vous ne voulez pas renoncer?
C'est-à-dire que je... Comment je pourrais dire ça? Il y a les 3/4 de ma personne qui je sais que cette histoire va se terminer. Alors, oui, comme vous disiez tout à l'heure, faut plus que je sois dans l'illusion. Les choses se sont faites. J'ai déjà eu la chance de connaître aussi cette histoire.
Oui.
Lui aussi me dit que de toute façon, je fais partie de sa vie.
Mais bien entendu, vous faites partie de sa vie.
Il m'a dit, tu n'es pas comme...
Et c'est important que vous arrêtiez la relation pour que chacun puisse grandir et que lui grandisse. Et peut-être qu'il prendra des nouvelles de vous plus tard. Et peut-être même que vous rencontrerez un jour, peut-être, voilà, pourquoi pas, son enfant. Mais lui, il a besoin de se construire. Et il a besoin aussi que sa compagne connaisse son histoire. Tant que vous êtes là, il ne peut pas en parler. Donc, pour avancer vers sa liberté, vers son indépendance, il faut que l'histoire puisse exister autrement. Elle va continuer d'exister, et pour vous et pour lui. Mais le couple n'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est du réel. Pourquoi je dis souvent voilà, qu'il faut passer de l'illusion à la réalité? La réalité, c'est que ce n'est pas possible dans la réalité. Il n'y a pas de couple possible. Alors, vous me direz, tout est possible en masquant, mais il n'y a pas de jolie relation possible. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui... Alors, moi, je vous conseillerais aussi, Jeanne, hein, parce que l'histoire littéraire, j'insiste, regorge d'histoires comme la vôtre, célèbres. Vous avez peut-être plutôt entendu parler de Marguerite Duras, non? Qui a rencontré vers la fin de sa vie, voilà, hein, Yann Lemay, mais qu'elle a appelé Yann Andrea, qui a été son compagnon. Elle a vécu avec lui. Il avait 38 ans hein, d'écart avec elle. Et lui a raconté leur histoire d'amour dans un livre qui s'appelle « Cet amour-là ».
D'accord.
Que je vous conseille aussi de lire. Inspirez-vous de la littérature, des histoires comme la vôtre, pour en comprendre aussi sans doute toute la richesse, qui est une richesse d'un instant donné dans une vie.
D'accord.
Alors évidemment, pour vous, devant vous, l'amour va vous paraître fade désormais, après ce que vous avez vécu. Il y a aussi ce problème-là que ça pose pour vous, j'imagine.
Oui, parce que...
Et j'imagine que c'est pour ça que vous nous avez raconté votre fil rouge, c'est-à-dire que vous avez voulu me raconter les relations d'avant pour placer celle-là. Hein, c'est intéressant, maintenant je comprends où vous vouliez en venir. C'est que vous vouliez montrer à quel point celle-là était exceptionnelle et à part. Et que celle-là, elle vous a redonné votre jeunesse, qui est souvent le cas. Vous dites, mais voilà, c'est le jeune homme de mon imaginaire. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ces amours, ce sont des amours d'automne, comme le chantait Barbara, à l'automne de la vie.
Oui.
Là, Barbara aussi a connu des grands amours avec des hommes plus jeunes, et voilà, notamment avec Depardieu. Donc, c'est important parce que c'est des amours magnifiques, mais il faut les laisser dans leur poésie, il faut les laisser dans, voilà, lui dans un printemps et vous dans un automne.
Alors, parce que je pense que de son côté, enfin, c'est pas je pense, puisqu'il me propose l'amitié, mais du mien, ça va être un petit peu, comment je pourrais dire, moi je n'ai pas d'amis hommes, vous voyez, parce que pour moi, un ami, enfin, mon mari était mon ami, mon amant, mon mari, bon, mes enfants. Et avec G, eh bien, il était un petit peu tout ça aussi. Mais pour qu'il soit juste mon ami, ça, je ne sais pas, ça va être...
Laissez passer un peu de temps. Il peut le devenir après un temps d'arrêt. Il faut quand même, voilà, modifier quelque chose dans cette relation de couple, et pour que ça se modifie, c'est pas un instant T, c'est pas on se revoit dans un mois et on est passé d'une relation de couple ou d'une relation sentimentale et amoureuse à une relation amicale. Voilà, il faut un peu de temps. Donc il faut un temps d'arrêt, et pour lui aussi, il est important ce temps d'arrêt, pour que chacun, voilà, puisse passer à autre chose.
Et alors, j'ai peur de ne pas pouvoir passer à autre chose.
Mais si vous pensiez, Jeanne, que lui a besoin de sa liberté, vous avez chacun... C'est important, enfin, il est papa d'une petite fille. Parce que si vous restez, si vous ne le quittez pas, je pense que c'est plus difficile, si ça se trouve, pour lui de vous quitter que dans l'autre sens. Parce qu'avec la différence d'âge et cette figure que vous avez, forcément maternelle-maternante, évidemment, dans ces amours-là, et puis de femme qui a représenté pour lui beaucoup de richesses, beaucoup d'enseignements, et c'est ce qu'il vous dit, évidemment. C'est difficile, peut-être pour lui, parce que sa compagne, il la place totalement ailleurs. C'est pour ça qu'il ne doit pas être forcément très gêné que vous soyez voilà, toutes les deux dans sa vie. Maintenant, pour vous... Bah vous, c'est voilà, il y a de la liberté à lui donner à cet homme jeune de construction, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce que
ça si peut vous animer.
Oui, donc comme je vous disais, en 4 mois, c'est vu que 2 fois, donc déjà pour moi, c'est déjà un petit signe aussi que voilà, il est dans sa vie de jeune père et dans sa vie de couple. Et alors, tout à l'heure, vous disiez quelque chose, et à savoir, quand il me disait, voilà, moi, voilà, il faut que je fasse ma vie, que je fasse ma vie, que je fonde une famille, et il m'a dit à plusieurs reprises, ce que j'aimerais, quand on se verra plus, c'est de pouvoir te présenter à ma femme et à mes enfants. Ça, il me l'avait dit aussi.
Oui, ben, je ne suis pas étonnée, je m'en doutais. Et pour ça, et pour qu'il puisse le faire, parce que vous faites partie de sa vie et de son histoire, il faut ce temps d'arrêt. Il faut à un moment donné, comme un jeûne, voilà, un jeûne avec un accent circonflexe, une forme de diète, voilà, il faut qu'il y ait une coupure. Il faut qu'il y ait quelque chose qui assèche votre amour, votre lien, pour qu'il renaisse autrement, pour que ce lien se transforme. Si vous êtes toujours là en posture d'amoureuse, de femme, c'est pas possible, ça. Donc, bien sûr qu'il va à un moment donné réapparaître dans votre vie, mais laissez du temps. Parce que vous êtes importants, bien sûr, l'un pour l'autre. Mais ce sont des amours, bah on pourrait dire à durée déterminée, ces amours-là. Et on le sait, c'est la vie même, c'est la réalité de la vie. Et c'est ce que nous racontent voilà, les histoires que je vous propose aussi.
Oui. Parce que, vous voyez, quand on avait eu une discussion il y a déjà très très longtemps, il m'avait dit aussi, mais Jeanne, dans ma vie, tu auras toujours, tu pourras pas être en compétition avec les autres. Tu es à part. Tu es comme mon socle, quoi.
Oui, donc...
Mais il faut que je fasse ma vie. Ça, plusieurs fois, il me l'a dit.
Oui, parce qu'il y a quelque chose...
Évidemment,
vous n'êtes pas sa maman, Jeanne. Vous n'êtes pas sa maman.
Ah, non, d'accord. Non, non, non. Hein? Non. Non, mais ça n'a jamais été le...
Non, mais j'entends alors, bien, vous êtes un socle sur lequel il s'est construit, mais ça y est, il est construit, là, il se construit. Oui. Donc, c'est important de, voilà, de tirer votre révérence. Voilà, tirez votre révérence, Jeanne, mais une jolie révérence
de
grande dame.
Alors, voilà. Parfois, il m'arrive d'être dans l'amertume, et puis parfois, non.
Non, eh bien, allez contacter ce qui n'est pas dans l'amertume, parce que l'amertume serait quelque chose de la forme aussi de la rancune, ça va ensemble. Or là, vous avez eu le meilleur et vous avez eu une belle histoire. Donc, vous tirez votre révérence et vous lui donnez sa liberté. Il y a Cathy qui dit, faut lâcher Jeanne, il vivra toujours en vous et vous en lui. Il vous l'a prouvé en tenant à donner votre prénom à son enfant. Gardez en vous les très heureux et beaux moments vécus, vous dit Cathy. Et je partage largement. Je vous souhaite en tout cas de bien réfléchir à ce qu'on s'est dit ce soir et d'y trouver la force, Jeanne, la force de la liberté.
Alors, la force, bien sûr, mais la force aussi de... j'ai l'impression qu'il va me falloir un peu de temps pour guérir de ça. Et combien de temps il y a ça aussi qui me fait un petit peu peur, parce que je ne veux pas non plus... il y aura le temps, voilà, il faut renoncer, il faut... et après, pour se retourner vers quelqu'un d'autre, ça va être compliqué aussi pour moi.
Mais bien entendu, bien entendu. Mais est-ce que dans l'amour, finalement, Jeanne, à qui on pense? On pense à soi, on pense à l'autre, mais c'est une vraie question. C'est pas si facile, c'est pas une question si facile. Est-ce que vous lui donnez sa liberté? Est-ce que vous le gardez pour vous?
Je préfère lui donner sa liberté.
Je pense que vous êtes devant ce choix-là. Mmh. Et forcément, quelquefois, on prend des décisions en amour qui sont très douloureuses. Il y a une auditrice qui dit « J'ai vécu la même chose, mais c'est moi le printemps. Et à rester trop longtemps dans l'illusion, cela peut reporter de grosses tempêtes qui abîment. Garder cette belle histoire qui devait vivre et mourir. Moi, je disais que c'était mon port. » C'est joli, merci pour ce beau message. Et j'aime beaucoup la phrase, hein, une belle histoire qui devait vivre et mourir, tout à fait. Il y a des histoires qui doivent mourir, et celle-là doit mourir, Jeanne, vraiment. Mais ça ne lui enlève ni sa beauté, ni sa force. Et j'incite un tout petit peu, vraiment, de vous encourager. Allez vers la littérature, ça va tellement vous aider à y voir plus clair. D'accord ? Alors, allez lire Michel Déon, Harold et Maude. Mon vieux roman, ça date pas d'hier, hein, des années, je crois bien 70, quelque chose comme ça. Et puis lisez Yann Andrea, cet amour-là, qui raconte son amour avec Marguerite Duras. C'est magnifique.
D'accord.
Bon courage à vous. Bonsoir.
Merci.
Bonsoir,
merci.
Jeanne. Bonne
soirée.
Oui, alors il y a Régine qui précise par message que Harold et Maude est aussi un film. Absolument, c'est aussi un film. C'était aussi une pièce de théâtre. Alors, vous voyez, il existait en film et en pièce de théâtre. C'était joué, je me souviens, moi, par la compagnie Renaud Barrault et par Madeleine Renaud. Voilà, une très, très belle pièce de théâtre également. Donc, effectivement, vous pouvez tout à fait voir le film. Mais la littérature, c'est bien aussi. Bonsoir, Claire.
Bonsoir.
Bienvenue.
Sophie.
Bienvenue.
Merci.
Alors, Claire, vous aussi, une histoire d'amour et une rupture douloureuse.
Voilà, c'est ça. C'est que je n'arrive vraiment pas à comprendre mon comportement. Je ne me comprends pas.
Ouais.
En ce sens que, bon, c'est vrai que ça a été une histoire qui a duré presque 9 ans. Le mois prochain, on aurait dû fêter les 9 ans. Qu'elle a toujours été chaotique.
Cette histoire, cette relation.
Oui, toujours, ouais, depuis le début. Ça a été un petit peu arraché par les cheveux, mais cependant, sur les 9 ans, il y a eu presque les 3/4 du temps, même si c'était chaotique, c'était quand même assez fort. Mmh. Assez attachant, assez fort. On se quittait, mais on revenait. Si c'était pas lui, c'était moi. Enfin, c'était comme ça, beaucoup de fois. Ensuite, vraiment, vers la fin, là, 2016 et 2017, à chaque année, 2016-2017, il y a une rupture pendant 4 mois. Et on est encore revenus ensemble, en sachant que Enfin, on avait un petit peu au fond de la tête tous les deux qu'on faisait une erreur de revenir ensemble. Alors, bon, ça a encore duré une année, mais finalement, cette dernière année-là, au contraire, moi, je me disais, bon, on a peut-être fait une erreur de revenir ensemble, mais malgré tout, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et je consolidais cette idée.
Ouais.
Et autant lui, il était quelquefois très tendre et très attachant, et parallèlement extrêmement odieux, humiliant. C'était à la limite du supportable. Et ben, c'est ce qui a fini par arriver, c'est qu'effectivement, il a fallu que je la mette à la porte en pleine vacances. Voilà. Et donc, là où je ne comprends pas mon comportement, c'est que même si j'étais contente qu'on soit revenus ensemble toute cette dernière année, justement, quand il y avait ces mauvaises attitudes de sa part, je me disais moi-même que c'était insupportable, qu'il fallait absolument que j'arrête, que je ne pouvais plus le voir, que je ne le supportais plus non plus, que dès que je le pourrais, et si je trouvais une autre occasion de faire une vie, voilà, enfin, moi-même, j'étais excédée. Mm-hmm. Et puis, même si je reviens carrément au début de notre histoire, je n'ai pas voulu rentrer dans l'histoire très vite et très facilement, parce que j'avais comme quelque chose qui m'en empêchait. J'arrivais pas à comprendre qu'on puisse se plaire alors qu'on était tellement opposés sur tellement de choses. Sur la diction, sur le vocabulaire, sur les idées générales de la vie.
C'est souvent les amours les plus forts, hein, Claire. C'est souvent les amours les plus forts, les plus passionnels.
Bon, bah voilà, donc ça a été passionnel, et donc on n'arrivait pas à se quitter. Et puis au milieu de cette relation, sa mère a fait un énorme scandale pour que je ne puisse plus aller dans leur famille, parce que déjà dès le départ, elle avait refusé notre relation.
Sa mère, mais donc il y a, mais c'était, enfin, il est plus jeune que vous, enfin, ça va vous.
Voilà,
vous avez...
c'est ça, oui, c'est ça. Il a 9 ans de moins que moi.
Oui.
Bon.
Mais donc il a 40, vous avez 55 ans, c'est ça? Il a quoi? Il a 45 ans, 46 ans.
Je ne dis pas les âges.
D'accord, mais en quoi sa mère a son mot à dire?
Non, oui, c'est ça qui m'étonne. On est largement. Ah
oui,
oui, si
voilà.
Vous voulez dire
on n'est pas
largement mature,
oui,
bien, voilà, sûr, voilà, bien sûr, voilà, voilà. Mais
bon.
Ben, okay. Moi, j'ai mis du temps à comprendre la relation avec sa mère.
Ouais,
et donc, en fait, quand il m'a connue au tout début, il m'a dit qu'il la détestait, qu'elle le détestait. En plus, c'est vrai qu'elle a montré devant moi une attitude très très méprisante vis-à-vis de lui, souvent. Donc j'étais censée croire ce qu'il ressentait. Et puis finalement, un jour, au bout de 2 ou 3 ans que ça durait, cette affaire, de mauvaises relations avec la famille, une de mes amies m'a dit qu'elle avait vécu un peu la même situation avec sa belle-mère. Et finalement, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a dit que c'était le préféré de sa mère. Ils sont 2 garçons, lui étant l'aîné, et l'autre, il a tous les honneurs et tout ça. Et elle m'a dit, mais non, c'est le préféré de sa mère, c'est qu'elle le garde tout le temps sous sa coupe, à sa botte, elle ne cesse d'être mécontente vis-à-vis de lui, et lui ne cesse d'essayer... soit d'aller dans son sens, soit de la contredire, mais c'est une guéguerre de couple.
Oui. Voilà. Donc, vous n'avez pas votre place là-dedans, c'est ça que vous voulez
dire? Alors, finalement, j'ai quand même, j'ai quand même considéré que c'était quand même assez vrai. C'est que, d'abord, lui, il est calqué sur le caractère de sa mère, irascible. Ils ont la même méthode, c'est de se faire adopter par tout le monde, par énormément de générosité. Et une fois qu'ils sont adoptés, largement, après, ils font ce qu'ils veulent de leur caractère et des gens.
Vous en êtes où aujourd'hui, alors, Claire, dans
ah
cette
bah,
relation?
Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre qu'au bout de 6 mois, je fais tous les efforts possibles pour sortir. Je trouve ma vie indépendante très riche, comme à chaque fois que j'ai été séparée avec lui, de lui. À chaque fois, je suis contente, je vois plein de gens, de choses intéressantes, des gens intéressants et tout. Je suis même courtisée, je suis flattée, je suis contente. Eh ben, j'arrive pas à me défaire de lui. Je suis très attentive à ce qu'il fait, et la moindre chose qui lui arrive, ça me fait fondre en larmes. Je sais qu'il est en train de faire naître une nouvelle vie. J'en suis démolie.
Voilà. La passion, ça s'appelle un amour passionnel. Et la passion n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec l'amour en général, parce qu'il ne construit pas, ça dévore, ça brûle, ça consume. Et vous êtes en train de vous consumer.
Oui, surtout que j'ai très mal de partout, c'est-à-dire que j'ai mal psychologiquement, mais j'ai
physiquement.
Mal aussi physiquement.
Ouais,
j'ai tout un tas de mots qui réapparaissent.
Ouais.
Et j'ai peur parce que j'ai subi une maladie importante pour laquelle je m'en suis remise. J'ai peur de retomber.
Qu'est-ce qui touche dans votre histoire, cet homme ? En quoi il est sans être lui-même important ? C'est-à-dire,
j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui me touche ?
Qu'est-ce qui vous touche chez lui ? C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il touche chez vous ? Quel sens vous trouvez à cette relation, parce qu'elle est inscrite dans votre histoire. C'est pour ça qu'il faut de la réponse. Claire, elle n'est pas chez lui et dans qui il est. Elle est chez vous. C'est-à-dire que cet homme-là, quand on est comme ça dans ses amours très, très pulsionnels, très passionnels et qui consument...
J'aimerais beaucoup être comme lui, parce que lui, il m'a toujours prévenu.
Oui.
Parce qu'il était tellement débordant d'amour dès le départ, dès les premières semaines. Mmh. Il me reprochait en parallèle de moi d'être plus dans la retenue. Et je lui disais que c'était lui qui n'était pas crédible. Ça se fait pas de dire je t'aime en même pas une semaine. C'est pas possible. J'y arrive pas. Et donc, je lui ai fait ce reproche et je lui dis mais t'es tout le temps comme ça. C'est pas possible. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de vies amoureuses avant moi. Beaucoup. Mmh. Qui durait 1 an, 2 ans, 6 ans, 3 mois, 4 mois, 15 ans avec sa femme et ses enfants, et moi 8 ans et demi. Donc il a eu beaucoup de vie. Et donc je lui disais, mais t'es tout le temps comme ça. Il m'a regardé franchement et il m'a dit, quand je suis dans une histoire et que j'en ai envie, je suis à fond. Et quand elle se termine, elle se termine.
Mais... Oui. Eh ben oui, et qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette histoire de beau ? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de vivre ?
C'est-à-dire qu'effectivement, comme j'étais beaucoup dans la retenue, parce que j'avais très peur de son passé, je me disais que j'allais être encore un numéro de plus, donc j'étais beaucoup dans la retenue, presque 1 an, hein. J'étais quand même contente d'être avec lui, j'arrivais pas à me détacher de lui, j'avais pas envie de cette relation, et finalement, j'arrivais pas à le lâcher. Et donc, au bout d'un an, il y a eu plusieurs étapes importantes. Il y a eu déjà un décès dans ma famille où il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup épaulée. Un an après ce décès, il y a eu ma propre maladie où il a été aussi très, 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 très présent. Et donc, ça a été 2 périodes tellement pointues, tellement importantes, où j'étais tellement à fond de cale que quand même, j'ai bien considéré qu'il m'aimait très sincèrement. Donc je me suis relâchée de la méfiance que j'ai eue au début et puis j'ai considéré que c'était très très important.
Et en quoi vous avez fait une erreur ?
On en est arrivé à faire des projets du futur.
Oui, et en quoi c'était une erreur tout ça ? Je comprends pas.
Non, c'est pas une erreur. C'est simplement que maintenant je voudrais être comme lui. Lui qui dit qu'une fois que c'est terminé, qu'une fois qu'il est dedans, il est à fond. Une fois que c'est terminé, j'aimerais arriver à ça.
D'accord.
Et j'y arrive pas. Alors que je sais très bien qu'il est absolument impossible pour moi de revenir avec lui. Il recommencerait à m'humilier. Je pense d'ailleurs qu'une fois qu'il a terminé une histoire, très souvent il m'a parlé du mal de ses ex, et je pense que là il est dans une grande colère contre moi, d'abord parce que je l'ai chassé, parce que ce n'est pas lui qui l'a décidé.
C'est vous qui l'avez quitté.
C'est moi qui l'ai chassé.
D'accord.
Donc oui, bon. Je l'ai quitté.
Donc vous n'assumez pas, vous ne prenez pas la responsabilité de votre action. Vous l'avez fait,
si,
mais elle ne vous va pas.
Ben
non.
Si, parce que en fait, ça a tellement été humiliant que je suis très contente de moi d'avoir réussi
ouais,
à réagir à ça.
Ça me paraît très toxique, c'est ce que vous me racontez, Claire, terriblement.
Oui.
Ça me paraît très, très toxique. Mais dans les deux sens, hein, dans ce que vous fabriquez ensemble. Parce que, vous voyez, les choses sont inversées. Hein. Donc, vous savez, quand on, ce qu'on appelle la perversion, c'est quand on pervertit quelque chose n'est pas dans le bon axe. Et là, quand vous me racontez les événements, ça ne se met pas dans les bons axes. C'est que, à la fois, lui, ce qu'il vous fait, et vous, ce que vous faites, je parle de la relation. Hein. Je ne parle pas de vous et de lui indépendamment. Je parle de la relation qui se crée. Donc, la relation, elle paraît, je comprends qu'elle vous rende un peu folle parce que bah, elle est loin d'être claire, cette relation. Alors c'est amusant d'ailleurs parce que vous vous appelez sous le prénom de Claire, mais elle manque de clarté. Pourquoi ? Parce qu'elle manque des choses aux bons endroits. Vous voyez, tout est mélangé. Il y a beaucoup d'incohérences et puis du coup ça pervertit ce que c'est que bah, on se quitte pas, on se respecte ou pas. Là, c'est plutôt on se détruit, on se détruit, on se fait du mal, quoi. Ouais.
On est arrivé à un point tellement de non-retour que c'est clair que tous les deux, on ne peut pas envisager quoi que ce soit ensemble. Mmh. Donc ça, c'est pas possible. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment arriver à surmonter mon émoi et à me détacher de lui. Je ne cesse de remonter les mauvais moments. Et quand je revois son rictus, son mépris, ses méchantes paroles, son humiliation, je ne peux que m'en détacher. Mmh. Et en même temps, voilà, ça recommence de me dire que c'est vrai que quand même, malgré qu'il me faisait ça, et ben malgré tout, il avait une chaleur près de moi, il me tenait quand même la main, il me prenait près de lui. Il a été là quand il y a eu des moments durs. Enfin, moi, à un moment donné...
Bien sûr, bien sûr, mais c'est...
Alors que j'avais été réticente au début, à un moment donné, j'ai quand même cru que c'était mon véritable homme de vie. Mm-hmm.
Mais Claire...
Je lui en veux énormément de m'avoir fait croire ça, alors que je ne voulais pas au début.
Mais il ne vous a pas fait croire.
Il était très sincère aussi, hein.
Ben voilà, donc il ne vous l'a pas fait croire. Il a été cet homme-là à ce moment-là, et après il est un autre homme.
Je lui en veux d'avoir organisé la dernière année, d'avoir organisé notre fin. Parce qu'il a monté crescendo les humiliations jusqu'à me pousser de mettre une fin. Lui, je lui disais tout le temps de ne plus revenir, de ne plus revenir, de ne plus revenir. Il revenait. Il n'arrivait pas à me quitter. Et il a fait en montant la situation à son maximum, il a fait en sorte que ce soit moi qui n'en puisse plus et qu'il le mette dehors.
Ce serait bien que vous puissiez assumer un peu tout ça, Claire. Assumer votre part à vous, pas sa part à lui. Voyez, parce que tout est, quand on en veut comme ça beaucoup à l'autre, qu'on a de la rancune, de l'amertume, tout est vu sous le prisme de l'autre, de ses yeux à lui. Et d'ailleurs, vous êtes très très centré sur lui, ce qu'il a fait, ce qu'il pense, ce qu'il est, etc. Recentrez-vous sur vous, parce que les réponses, vous allez les trouver à cet endroit-là. Puis surtout, ça va ramener de la clarté. Vous ne pouvez pas en avoir quand vous êtes comme ça, centré sur lui. Vous avez posé cette action importante. Prenez-en vraiment toute la mesure, c'est-à-dire connectez-vous à vous pour là, et pas à lui, et pas comment il le vit. Ah, j'aimerais la vivre comme lui, c'est pas juste, lui, il la vit bien, etc. Lui, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel pour vous de reconnecter avec votre décision, avec votre responsabilité, avec vous, et de lâcher un peu le regard que vous portez sur lui et qui il est. Ça me semble,
Je pense là.
Je vous souhaite une bonne route, Claire. Et puis je vous recommande à vous aussi un ouvrage, Passion simple, d'Annie Ernaux. Ça va bien vous plaire, ça. Je pense, Annie Ernaux. C'est une auteure pour vous.
Bien, oui.
Voilà, simple, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas si simple. Bonsoir, Claire. Bonne nuit à vous. Puis avant de vous quitter, de vous dire bonsoir, j'ai fait une erreur, j'ose dire, rôle des mots de Michel Déon, mais ça c'est ma jeunesse qui me trompe, ça doit être les auteurs que je lisais et les ouvrages à l'époque. Non, pas du tout, d'un coup je me dis mais c'est pas du tout Michel Déon, c'est Colin Higgins, H-I-G-I-N-S. Et oui, le film est formidable, la pièce est formidable et le roman est formidable, ça c'est bien les trois et là-dessus c'est tout à fait ça. Écoutez, merci pour ce joli moment, toujours ces jolis moments avec vous. Merci à Marcel ce soir, merci à Jeanne et merci à Claire. J'ai un petit chat dans la gorge là tout d'un coup. Et on se retrouve évidemment demain. Alors c'est promis, demain c'est 22h30. Et pour vous plonger dans la nuit douce, un haïku de Sri Nisargadatta Maharaj. J'ai pas choisi la simplicité, mais le haïku est très joli. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Je vous souhaite une belle nuit, tendre et douce, comme vous les aimez, j'espère. Et on se retrouve demain à 22h30 pour de nouveaux échanges.